Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement fixe 3 mois de carence pour les demandeurs d'asile qui souhaitent accéder à la sécurité sociale de base. Une annonce officialisée demain qui fait déjà réagir les associations. Mais pourquoi l'exécutif fait-il cet arbitrage? Élément de réponse en début de journal.
Nous vous dévoilerons également le rapport attendu ce mardi sur les zones d'éducation prioritaires. La carte de France pourrait être redessinée pour donner plus de pouvoir aux recteurs d'académie.
L'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne à Marseille. C'était il y a un an très exactement. Depuis, l'insalubrité perdure à cause entre autres des casse-têtes administratifs, vous le comprendrez.
Et puis vous entendrez l'appel d'Emmanuel Macron depuis la Chine sur le climat. Bruxelles et Pékin, dit-il, doivent s'allier pour lutter contre le réchauffement climatique. Hier soir, les États-Unis ont enclenché leur départ de l'accord de Paris.
Après cette édition, Guillaume, nous évoquerons les violences et l'incendie d'un centre social à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Dans son billet politique, Frédéric Seyss reviendra sur la bataille lexicale au sein de la classe politique française après cet incendie. Les arbitrages ont donc été présentés hier soir aux parlementaires de la majorité qui travaillent sur les sujets d'immigration. 20 mesures à ce propos seront présentées publiquement demain, mais on connaît déjà la première d'entre elles. Les demandeurs d'asile devront désormais attendre 3 mois après le dépôt de leur dossier, 3 mois avant de pouvoir bénéficier d'un accès aux soins en France via la protection universelle maladie, la sécurité sociale de base. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Ce délai de carence n'est pas vraiment surprenant. Si l'on écoute, si l'on regarde attentivement, Anne, les déclarations de l'exécutif ces derniers jours.
Oui, dans son entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron avait fait référence à la protection universelle maladie, c'est l'ex-CMU, une prise en charge des frais de santé inconditionnels pour les demandeurs d'asile. Aussi, et pour eux, elle se fait sur présentation de l'attestation de demande d'asile, attestation qui doit être accompagnée d'un justificatif de domicile. Dans son interview, le chef de l'État avait parlé de ce dispositif, je cite, beaucoup plus généreux que l'AME, l'aide médicale d'État, destinée cette fois-ci aux sans-papiers après 3 mois de résidence sur le territoire. Ce que je veux qu'on fasse, c'est mettre un délai de carence pour réguler cette aide, à savoir la protection universelle maladie, avait précisé le chef de l'État, Emmanuel Macron. Dans la droite ligne de ce qu'avait énoncé le Premier ministre Édouard Philippe lors du débat sur l'immigration début octobre, il avait parlé, je cite, d'un système français d'asile aujourd'hui saturé. Et puis, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait donné une piste d'explication récemment. Récemment, elle s'est élevée contre un dévoiement de la protection universelle maladie par des demandeurs d'asile qui venaient de Géorgie et d'albanie, des pays dits sûrs.
À 3 mois donc avant de pouvoir bénéficier de la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile, les associations Anne protestent déjà.
Oui, elles avaient déjà poussé un cri d'alarme jeudi dernier. Ces associations telles que Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, le SIDAction ou encore la Ligue des Droits de l'Homme, elles s'inquiétaient de la mise en place d'un tour de vis au niveau de l'AME dans cette réforme. Alors, il n'est pas question de remettre en cause le panier de soins de l'AME, mais de mettre sous accord préalable certains d'entre eux qui peuvent faire l'objet de fraudes ou de trafic. Pour le président de la Ligue des droits de l'homme, Malik Salincourt, on passe un pas supplémentaire avec le délai de carence pour les demandeurs d'asile.
Cette mesure vise clairement à précariser et mettre dans une situation sanitaire les demandeurs d'asile encore plus précaires qu'ils le sont aujourd'hui. Et ne pas pouvoir se soigner, c'est avoir au contraire des maladies plus graves, des conditions de vie plus difficiles. Donc je ne suis pas sûr que ça soit à la lumière de l'humanité que voulait porter le président de la République.
Un délai de carence qui devrait donc être confirmé demain matin. Édouard Philippe, le Premier ministre, prendra la parole à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration et l'intégration.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg pour cette analyse et ces précisions ce matin. J'ajoute que le gouvernement veut également faciliter l'immigration économique. Il veut en cela permettre au secteur en tension d'embaucher plus facilement des étrangers. Mesure là aussi présentée demain par le Premier ministre. Édouard Philippe qui était hier en région parisienne pour lancer le chantier des Jeux Olympiques pour 2024. Et il a été interrogé à cette occasion sur les violences urbaines qui ont eu lieu samedi dernier dans les Yvelines à Chanteloup-les-Vignes. Il a fustigé une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, ce sont ces mots. La droite ainsi que des policiers l'accusent déjà de minorer ce qu'il s'est passé. Un centre social et culturel y a été incendié. Ce matin, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Ville et du Logement seront sur place à Chanteloup-les-Vignes. Côté enquête, notons que 2 individus ont été mis en examen et placés hier en détention provisoire. Réformer une fois encore les zones d'éducation prioritaires. Voici l'objet du rapport remis aujourd'hui par l'inspectrice générale générale de l'éducation nationale, Ariane Azéma, et le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot. Depuis 5 ans, la carte des réseaux établit des REP et des REP+, les écoles ultra sensibles. Alors on ne toucherait pas à celles-ci, mais les REP pourraient être repensées. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Le rapport propose d'abord une plus grande stabilité politique, Hakim.
Oui, depuis leur création il y a 40 ans, au fil des différentes majorités politiques, les réseaux d'éducation prioritaire ont déjà connu 6 réformes, ce qui est beaucoup d'un point de vue pédagogique, car les politiques éducatives ont besoin d'être appliquées sur le temps long pour être efficaces. Les rapporteurs souhaitent également plus de formation pour inciter les enseignants à rester plus longtemps en zone d'éducation prioritaire, une formation qui serait certifiante pour mieux s'adapter aux différents publics d'élèves, notamment pour les allophones qui ne parlent pas le français ou pour les classes à âge multiple. C'est par exemple le cas dans les collèges de REP+, où souvent l'écart est important avec les redoublements, ou encore en zone rurale où un enseignant a 3 classes différentes. Des enseignants qui toucheraient également une prime à la mobilité en faisant le choix de rester au moins pendant 5 ans dans des villes intermédiaires, loin des grandes métropoles attractives, ou bien en faisant le choix d'aller en zone rurale, mais surtout en zone rurale, mais en réseau d'éducation prioritaire. Quant à la carte des REP et des REP+, Pierre Mathiot et Ariane Azéma souhaitent que les académies aient plus la main pour décider quel établissement doit entrer ou sortir du réseau. Ils estiment que par leur position sur le terrain, les recteurs sont plus à même de choisir, contrairement au ministère qui, lui, a une vision nationale et aussi, il faut le dire, financière. Enfin, pour réduire les inégalités dans un même quartier, le rapport propose d'allouer à des écoles qui ne sont pas REP ou REP+, les mêmes moyens que celles qui le sont, à condition d'être mitoyennes d'une REP ou d'une REP+, et qu'elles soient situées dans un quartier classé en politique de la ville, ce qui concernerait au moins 500 écoles en France.
Merci Hakim Kasmi, spécialiste éducation de France Culture. Ce chiffre à présent qui précise une pratique qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne se démocratise pas tant que ça. Le télétravail n'était pratiqué en 2017 que par 3% des salariés en France. L'étude est publiée par la DARES, l'Institut des statistiques au ministère du Travail. 11% des cadres sont télétravailleurs, mais cela les fait travailler plus longuement. Voilà ce que note la DARES. Il y a 1 an jour pour jour, 2 immeubles s'effondraient à Marseille, rue d'Aubagne. 8 personnes en sont mortes et la ville devenait un peu plus le symbole de l'insalubrité. 1 an après, quels efforts ont été faits ? Aucun, ou presque. Preuve en est le reportage diffusé tout à l'heure à 7h24 sur notre antenne sur les logements marseillais. Et nous avons aussi interrogé un urbaniste spécialiste des politiques de la ville. Philippe Méjean note un problème systémique et administratif à Marseille.
Il y a une répartition des responsabilités entre plusieurs partenaires, plusieurs acteurs, s'agissant notamment du traitement du logement insalubre, indigne, où à la fois l'État, les collectivités locales, les communes, les établissements de coopération intercommunale, voire le département, la CAF, etc., tout le monde est responsable. Enfin, tout le monde a un bout de responsabilité au titre de législations, si vous voulez, qui sont nombreuses, qui sont différentes. Il faut faire un grand ménage de manière beaucoup plus fondamentale dans ce qu'on pourrait appeler la boîte à outils, si vous voulez, du parfait urbaniste en charge de régler ces questions. On est sur des outils et des procédures qui sont trop complexes, qui se cumulent, qui se contredisent. On ne sait pas qui fait quoi, si vous voulez. Le préfet fait un certain nombre de choses, il renvoie la balle au maire, qui lui-même lui renvoie la balle, qui lui ensuite va la renvoyer au président du conseil départemental, etc. Donc il faut sortir de cette situation pour régler les situations dans le long terme.
Des propos recueillis par Diane Berger.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal, Donald Trump. Mais sa menace à exécution, les États-Unis officialisent leur sortie de l'accord de Paris sur le climat.
Une promesse confirmée, effectivement, hier soir par le président américain. Le dossier, ça y est sur le bureau des Nations Unies pour enclencher un processus qui va durer 1 an. La sortie de cet accord sur le climat sera donc effective dans 1 an au lendemain de la prochaine présidentielle outre-Atlantique. C'est certes une confirmation qui prouve l'entêtement de Washington face à la mobilisation internationale ces dernières années. Notre correspondant Grégory Phillips a interrogé à ce propos David Levaille, chercheur associé à l'Institut de développement durable et de relations internationales. Voici son analyse.
Il y a 2 ans et demi, bon, l'annonce n'était pas une surprise. Mais entre-temps, énormément de signaux différents ont été entendus à travers le monde et aux États-Unis notamment. D'abord, les cris d'alerte des scientifiques, nombreux à travers les rapports du GIEC. Il y en a eu 3 qui sont extrêmement alarmants depuis que Trump avait fait sa première annonce. Deuxièmement, une mobilisation citoyenne très forte, aux États-Unis aussi, avec les attentes de la population, dans les districts démocrates bien sûr, mais aussi dans les districts républicains. Et la troisième dimension, c'est la mobilisation des villes, des États, des entreprises, qui elle n'a cessé de croître. Et donc le décalage entre des postures idéologiques de la Maison-Blanche et la réalité de l'action sur le terrain et des attentes des concitoyens est patente.
Et déjà, la France dit regretter cette décision américaine. Cela rend encore plus nécessaire le partenariat franco-chinois sur le climat et la biodiversité. Voilà ce qu'indique la présidence française. Alors qu'Emmanuel Macron entame justement sa deuxième journée de visite en Chine. Et depuis Shanghai, cette nuit, il a d'ailleurs appelé à la mobilisation générale sur le climat.
Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de réduction d'émissions. Il nous faudra l'année prochaine confirmer de nouveaux engagements pour 2030 et 2050 et la coopération à ce titre entre la Chine et l'Union européenne est décisive. La place que la Chine, le gouvernement, l'ensemble des provinces, l'ensemble des investisseurs et des entreprises ont joué a été décisive ces deux dernières années. Il nous faut l'année prochaine que dans l'agenda de rehaussement, soyons aussi collectivement au rendez-vous.
Des propos recueillis par Dominique André lors du discours d'Emmanuel Macron cette nuit pour ouvrir la foire internationale des importations à Shanghai. Un discours rendu public pendant lequel certains auraient aimé entendre quelques mots sur les droits de l'homme bafoués en Chine lorsqu'il s'agit des Ouïghours, des opposants politiques, idem en ce moment à Hong Kong. Écoutez Bénédicte Jeannereau, présidente de l'antenne française de Human Rights Watch.
Pourquoi est-ce que c'est important de s'exprimer publiquement? Parce que sinon, c'est une parole qui n'est entendue que par les officiels chinois, qui n'est pas entendue par les Chinois ordinaires à travers le pays et qui n'est pas entendue par les personnes qui sont directement confrontées à ces abus. Et il nous semble que l'ampleur des violations qui se déroulent aujourd'hui dans la province du Xinjiang contre la population ouïghour et qui se manifeste par une répression massive contre cette population doit nécessairement provoquer une indignation internationale publique des différents États. Et c'est pour cela que nous appelons Emmanuel Macron à sortir de la logique de la diplomatie silencieuse, de la diplomatie de la discrétion, qui n'a produit aucun résultat en termes de pression publique sur Pékin jusqu'à maintenant, et qu'il appelle les autorités chinoises à fermer les camps de détention et à autoriser l'accès indépendant à une mission des Nations Unies dans le Xinjiang.
Bénédicte Jeannereau interrogée par Olivier Poujade, alors qu'Emmanuel Macron est donc en Chine en ce moment et actuellement il est au centre Pompidou de Shanghai pour son inauguration. L'occasion, si vous le souhaitez, de parcourir notre article sur internet consacré aux musées français qui mettent le cap à l'international. Article de Maxime Tellier sur franceculture.fr. Les barrages routiers ont repris hier au Liban au 20e jour de mobilisation contre le pouvoir. La contestation avait baissé la semaine passée, après la démission du Premier ministre, Saad Hariri. Mais elle reprend de plus belle ces dernières heures. Pour l'illustrer, voici un reportage d'Aurélien Colli à Beyrouth. Il nous décrit la situation.
Un banc public, une voiture et deux poubelles en travers de la route. C'est l'un des barrages réapparus hier dans la capitale libanaise, tenu par une cinquantaine de personnes, dont Sherbil, étudiant de 24 ans.
On veut un gouvernement indépendant, technocrate, hors politique et religion, qui peuvent rendre le Liban un meilleur état économique. Nous ne voulons plus de corruption politique au Liban, dans un état qui n'est pas acceptable.
Un état qui a la troisième dette publique au monde, qui ne fournit pas les services élémentaires, eau, électricité, et qui offre à sa jeunesse un chômage endémique, dirigé par la même classe politique depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans, engluée, elle, dans le confessionnalisme, la corruption et le clientélisme.
Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, parce qu'on est au milieu de la route.
Sur une place réoccupée de Beyrouth, Camille, 64 ans, veut maintenir la pression sur le président Michel Aoun, une semaine après que la rue ait obtenu la démission du Premier ministre Saad Hariri.
Le président, il ne bouge pas. Khalas, ça suffit. Il rentre à sa maison. Des nouveaux gens maintenant. Khalas.
Mais le retour des barrages depuis hier et la paralysie de la vie économique depuis 15 jours commencent aussi à peser. Au carrefour tenu par Sherbil, un policier s'accroche avec un automobiliste, énervé lui par cette rue à nouveau bloquée.
C'était Aurélien Colli à Beyrouth pour France Culture. Une mobilisation populaire a lieu également en Guinée en ce moment, dans l'Afrique de l'Ouest. Une quinzaine de personnes sont mortes ces dernières semaines, dont deux hier, alors que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Au cœur de cette crise, il y a un projet controversé de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président de la République en Guinée, Alpha Condé, de se maintenir au pouvoir au-delà de ses deux mandats constitutionnels. Un ciel de traîne va s'installer sur l'ensemble de la France métropolitaine ce mardi, alternant entre périodes ensoleillées, passages venteux, nuageux, parfois humides. Comptez ce matin 11 degrés à Paris et à Lille, 12 à Nantes et Strasbourg, 13 degrés à Bordeaux et Grenoble, et ce matin 18 degrés à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal.